Chapitre 4. Lorsque j'entrai le lendemain, vers 7 heures, dans la chambre de M. Goulden pour me remettre à l'ouvrage, il était encore au lit et tout abattu. « Joseph, me dit-il, je ne suis pas bien. Toutes ces terribles histoires m'ont rendu malade. Je n'ai pas dormi. « Est-ce qu'il faut vous faire du thé ?» lui demandai-je. « Non, mon enfant, non, c'est inutile. Arrange seulement un peu le feu, je me lèverai plus tard. » Mais à 7 heures, il faudrait aller régler les horloges en ville. Nous sommes au lundi, je ne peux pas y aller, car de voir tant d'honnêtes gens dans une désolation pareille, des gens que je connais depuis 30 ans, cela me rendrait tout à fait malheureux. Écoute, Joseph, prends les clés pendues derrière la porte et vas-y. Cela vaudra mieux. Moi, je vais tâcher de me remettre, de dormir un peu. Si je pouvais dormir 1 heure ou 2, cela me ferait du bien. « C'est bon, monsieur Goulden, lui dis-je. Je pars tout de suite. » Après avoir mis du bois au fourneau, je pris le manteau et les moufles, je tirai les rideaux du lit de monsieur Goulden et je sortis le trousseau de clés dans ma poche. L'indisposition du père Melchior me chagrinait bien un peu, mais une idée me consolait. Je me disais en moi-même, « Tu vas grimper sur le clocher de la ville et tu verras de là-haut la maison de Catherine et de la tante Gredel. » En songeant à cela, j'arrivai chez le sonneur de cloche Brinstein, qui demeurait au coin de la petite place, dans une vieille baraque décrépite. Ces deux garçons étaient tisserands, et dans ce vieux nid, on entendait grincer les métiers et siffler les navettes du matin au soir. La grand-mère, tellement vieille qu'on ne voyait plus ses yeux, dormait dans un antique fauteuil, en haut duquel perchait une pie. Le père Brinstein, quand il n'avait pas à sonner les cloches pour un baptême, un enterrement ou un mariage, lisait dans son almanach, derrière les petites vitres rondes de la croisée. À côté de leur baraque était une cassine. Sous le toit de la vieille halle où travaillait le savetier Cognam, et plus loin se trouvait l'étalage des bouchers et des fruitières. J'arrivai donc chez les Brinstein, et le vieux, en me voyant, se leva disant « C'est vous, monsieur Joseph ?» « Oui, père Brinstein, je viens à la place de M. Goulden, qui n'est pas bien. »« Ah, bon, bon, c'est la même chose. » Il mit son vieux tricot et son gros bonnet de laine en chassant le chat qui dormait dessus. Puis, il prit la grosse clé du clocher dans un tiroir et nous sortîmes, moi bien heureux de me trouver au grand air malgré le froid, car dans ce trou tout était gris de vapeur, et on avait autant de peine à respirer que dans une marmite. Je n'ai jamais compris comment ces gens pouvaient vivre de la sorte. Enfin, nous remontâmes la rue et le père Brinstein me dit « Vous connaissez le grand malheur de la Russie, monsieur Joseph ?»« Oui, père Brinstein, c'est terrible. »« Ah, fit-il, bien sûr. Mais ça rapportera beaucoup de messes à l'église. Car voyez-vous, tout le monde voudra faire dire des messes pour ses enfants, d'autant plus qu'ils sont morts dans un pays païen. »« sans doute, lui dis-je. » Traversions alors la place et devant la maison commune, en face du corps de garde, stationnaient déjà plusieurs personnes, des paysans et des gens de la ville, qui lisaient une affiche. Nous montâmes le perron et nous entrâmes dans l'église où plus de 20 femmes, jeunes et vieilles, étaient à genoux sur le pavé, malgré le froid épouvantable. « Voyez-vous, fit Brinstein, qu'est-ce que je vous disais? Elles viennent déjà prier, et je suis sûr que la moitié sont là depuis 5 heures. » Il ouvrit la petite porte de la tour par où l'on monte aux orgues, et nous nous mîmes à grimper dans les ténèbres. Une fois dans les orgues, nous prîmes à gauche du soufflet et nous montâmes jusqu'aux cloches. Je fus bien content de revoir le ciel bleu et de respirer le grand air, car la mauvaise odeur des chauves-souris qui vivent dans ces boyaux vous étouffait presque. Mais quel froid épouvantable dans cette cage ouverte à tous les vents, et quelle lumière éblouissante par ces temps de neige où la vue s'étendait sur 20 lieues de pays. Toute la petite ville de Phasburg, avec ses 6 bastions, ses 3 demi-lunes, ses 2 avancées, ses casernes, ses poudrières, ses ponts, ses glacis et ses remparts, sa grande place d'armes et ses petites maisons bien alignées, se dessinaient là comme sur un papier blanc. On voyait jusqu'au fond des cours, et moi, qui n'étais pas encore habitué à cela, je me tenais bien au milieu de la plateforme, de peur d'avoir l'idée de m'envoler. Comme on le raconte de certaines gens qui deviennent fous par les grandes hauteurs. Je n'osais m'approcher de l'horloge, dont le cadran est peint derrière avec ses aiguilles. Et si Bernstein ne m'avait pas donné l'exemple, je serais resté là, cramponné à la poutre des cloches. Mais il me dit « Venez, monsieur Joseph, et regardez, est-ce que c'est l'heure ?» Alors je sortis la grosse montre de monsieur Goulden qui marquait les secondes. Et je vis qu'il y avait beaucoup de retard. Bernstein m'aidait à tirer les poids et nous réglâmes aussi les touches. « L'horloge est toujours en retard les hivers, dit-il, à cause du fer qui travaille. » Après m'être un peu familiarisé avec ces choses, je me mis à regarder les environs, les baraques du bois de chêne, les baraques d'en haut, le Bigelberg, et finalement, j'ai reconnu les quatre vents, sur la côte en face, et la maison de la tante Grédel. Justement, la cheminée fumait comme un fil bleu qui monte au ciel. Et je revis la cuisine. Je me représentais Catherine en sabots et en petite jupe de laine, filant au coin de l'âtre en pensant à moi. J'étais tellement attendri que je ne sentais plus le froid. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette cheminée. Le père Bernstein, qui ne savait pas ce que je regardais, dit « Oui, oui, monsieur Joseph, maintenant, malgré la neige, tous les chemins sont couverts de monde. La grande nouvelle s'est déjà répandue, et chacun arrive pour savoir au juste son malheur. » Je vis qu'il avait raison. Tous les chemins, tous les sentiers étaient couverts de gens qui venaient en ville. Et regardant sur la place, j'aperçus la foule qui grossissait devant le corps de garde de la mairie et devant la poste aux lettres. On entendait comme des grandes rumeurs. Enfin, après avoir regardé de nouveau la maison de Catherine, il fallut descendre, et nous nous mîmes à tourner dans l'escalier sombre, comme dans un puits. Une fois dans l'orgue, nous vîmes du balcon que la foule avait beaucoup grossi dans l'église. Toutes les mères, toutes les sœurs, toutes les vieilles grand-mères, les riches et les pauvres étaient à genoux dans les bancs au milieu du plus grand silence. Elles priaient pour ceux de là-bas, offrant tout pour les revoir encore une fois. D'abord, je ne compris pas bien cela, mais tout à coup la pensée me vint que, si j'étais parti l'année d'avant, Catherine serait aussi là pour prier et me redemander à Dieu. Cela me traversa le cœur. Je sentis tout mon corps grelotter. « Allons-nous-en, allons-nous-en, » dit Jeanne Bernstein. « C'est épouvantable !»« Quoi ? » fit-il. « La guerre !» Nous descendions alors l'escalier sous la grande porte, et je traversai la place pour aller chez monsieur le commandant Meunier, pendant que Bernstein reprenait le chemin de sa maison. Au coin de l'hôtel de ville, je vis un spectacle que je me rappellerai toute ma vie. C'est là qu'était la grande affiche. Plus de 500 personnes. Des gens de la ville et des paysans, des hommes et des femmes, serrés les uns contre les autres, tout pâle et le cou tendu, la regardaient en silence comme quelque chose de terrible. Ils ne pouvaient pas la lire. Et de temps en temps, l'un ou l'autre disait en allemand ou en français « Ils ne sont pourtant pas tous morts. Il en reviendra tout de même. » D'autres criaient « Mais on ne voit rien. On ne peut pas approcher. » Une pauvre vieille derrière levait les mains en criant « Christophe, mon pauvre Christophe !» D'autres, comme indignés de l'entendre, disaient « Faites donc taire cette vieille !» Chacun ne pensait qu'à soi. Derrière, il en venait toujours d'autres par la porte d'Allemagne. À la fin, Armentier, le sergent de ville, sortit de la voûte du corps de garde et se mit en haut des marches avec une affiche toute pareille à celle du mur. Quelques soldats le suivaient. Alors, tout le monde courut de son côté, mais les soldats écartèrent les premiers et le père Armentier se mit à lire cette affiche qu'on appelait le 29e bulletin, et dans laquelle l'empereur racontait que pendant la retraite, les chevaux périssaient toutes les nuits par milliers. Il ne disait rien des hommes. Le sergent de ville lisait lentement, personne ne soufflait mot. La vieille, qui ne comprenait pas le français, écoutait comme les autres. On aurait entendu voler une mouche. Mais quand il en vint à ce passage, « Notre cavalerie était tellement démontée que l'on a dû réunir les officiers auxquels il restait un cheval pour en former quatre compagnies de 150 hommes chacune. Les généraux faisaient les fonctions de capitaine et les colonels celles de sous-officiers. » Quand il lut ce passage, qui en disait plus sur la misère de la grande armée que tout le reste, les cris et les gémissements se firent entendre de tous les côtés. Deux ou trois femmes tombèrent. On les emmenait en les soutenant par les bras. Il est vrai que l'affiche ajoutait « La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure. Et c'était une grande consolation. Malheureusement, ça ne pouvait pas rendre la vie aux 300 000 hommes enterrés dans la neige. Aussi, les gens s'en allaient bien tristes. D'autres venaient par douzaines, qui n'avaient rien entendu. Et d'heure en heure, Armentier sortait pour lire le bulletin. Cela dura jusqu'au soir. Et chaque fois, c'était la même chose. Je me sauvais. J'aurais voulu ne rien savoir de tout cela. Je montai chez monsieur le commandant de place. En entrant dans son salon, je le vis qui déjeunait. C'était un homme déjà vieux, mais solide, la face rouge et de bon appétit. « Ah, c'est toi, » fit-il. « Monsieur Gulden ne vient donc pas ?»« Non, monsieur le commandant, il est malade à cause des mauvaises nouvelles. »« Ah, bon, bon, je comprends ça, » fit-il en vidant son verre. « Oui, c'est malheureux. » Et tandis que je levais le globe de la pendule, il ajouta. « Bah, tu diras à monsieur Gulden que nous aurons notre revanche. » On ne peut pas toujours avoir le dessus, que diable! Depuis 15 ans que nous les menons tambour battant, il est assez juste qu'on leur laisse cette petite fiche de consolation. Et puis, l'honneur est sauf. Nous n'avons pas été battus. Sans la neige et le froid, ces pauvres Cosaques, on aurait vu des durs. Mais un peu de patience, les cadres seront bientôt remplis. Et alors, gare! Je remontai la pendule. Il se leva et vint regarder, étant grand amateur d'horlogerie. Il me pinça l'oreille d'un air joyeux. Puis, comme j'allais me retirer, il s'écria en reboutonnant sa grosse capote qu'il avait ouverte pour manger. « Dis au père Gulden de dormir tranquille. La danse va recommencer au printemps. Ils n'auront pas toujours l'hiver pour eux et les Kalmouks. Dis-lui ça. »« Oui, monsieur le commandant, » répondis-je en fermant la porte. Sa grosse figure et son air de bonne humeur m'avaient un peu consolé. Mais dans toutes les maisons où j'allais ensuite, chez les Harwich, chez les Franstoni, chez les Durlar, partout, on n'entendait que des plaintes. Les femmes, surtout, étaient dans la désolation. Les hommes ne disaient rien et se promenaient de long en large, la tête penchée, sans même regarder ce que je faisais chez eux. Vers 10 heures, il ne me restait plus que 2 personnes à voir. Monsieur de la Vablerie Chamberlain, un ancien noble, qui demeurait au bout de la grande rue, avec Madame Chamberlain d'Ecoff et Mademoiselle Jeanne, leur fille. C'étaient des émigrés revenus depuis 3 ou 4 ans. Ils ne fréquentaient personne en ville, et ils ne voyaient que 3 ou 4 vieux curés des environs. Monsieur de Lavablerie Chamberlain n'aimait que la chasse. Il avait 6 chiens au fond de sa cour et une voiture à 2 chevaux. Le père Robert, de la rue des Capucins, leur servait de cocher, de palefrenier, de domestique et de piqueur. Monsieur de Lavablerie portait toujours une veste de chasse, une casquette en cuir bouilli et des bottes à éperons. Toute la ville l'appelait « le braque », mais on ne disait rien ni de madame, ni de mademoiselle de Chamberlain. J'étais bien triste en poussant la lourde porte à poulie, dont le grelottement se prolongeait dans le vestibule. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre au milieu de cette désolation générale un air de chant et de clavecin. Monsieur de la Vablerie chantait, et mademoiselle Jeanne l'accompagnait. Je ne savais pas, dans ce temps, que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je me dis, la main sur le loquet, ils ne connaissent pas encore les nouvelles de Russie. Mais comme j'étais ainsi, la porte de la cuisine s'ouvrit, et mademoiselle Louise, leur servante, penchant la tête, demanda. « Qui est là ?»« C'est moi, mademoiselle Louise. »« Ah, c'est vous, monsieur Joseph. Passez par ici. » Ces gens avaient leur pendule dans un grand salon où l'on n'entrait que rarement. Les hautes fenêtres à persiennes donnant sur la cour restaient fermées, mais on y voyait assez pour ce que j'avais à faire. Je passai donc par la cuisine et je réglai l'antique pendule, une pièce magnifique en marbre blanc. Mademoiselle Louise regardait. « Vous avez du monde, mademoiselle Louise ?» lui dis-je. « Non, mais monsieur m'a prévenu de ne laisser rentrer personne. Ils sont bien joyeux chez vous. »« Ah oui, » fit-elle, « c'est la première fois depuis des années. Je ne sais pas ce qu'ils ont. » Je remis le globe et je sortis, rêvant à ces choses qui me paraissaient extraordinaires. L'idée ne me vint pas que ceux-ci se réjouissaient de notre défaite. En partant de là, je tournai le coin de la rue pour me rendre chez le père Ferral, qu'on appelait porte-drapeau, parce qu'à l'âge de 45 ans, étant forgeron et père de famille depuis longtemps, il avait porté le drapeau des volontaires de Falsbourg en 92 et n'était revenu qu'après la campagne de Zurich. Il avait ses 3 garçons à l'armée de Russie, Jean, Louis et Georges Ferral. Georges était commandant dans les dragons, les deux autres officiers d'infanterie. Je me figurais d'avance le chagrin du père Ferral, mais ce n'était rien après ce que je vis en entrant dans sa chambre. Ce pauvre vieux, aveugle et tout chauve, était assis dans le fauteuil derrière le fourneau, la tête penchée sur la poitrine, et ses grands yeux blancs écarquillés, comme s'il avait vu ses trois garçons étendus à ses pieds. Il ne disait rien, mais de grosses gouttes de sueur coulaient de son front sur ses longues joues maigres, et sa figure était tellement pâle qu'on aurait dit qu'il allait rendre l'âme. Quatre ou cinq de ses anciens camarades du temps de la République, le père Desmarais, le père Nivois, le vieux Paradis, le grand Froissart, étaient arrivés pour le consoler. Ils se tenaient autour de lui, dans le plus grand silence, fumant des pipes et faisant des mines désolées. De temps en temps, l'un ou l'autre disait « Allons, Ferral, allons, est-ce que nous ne sommes plus des anciens de l'armée, de Sambre et Meuse ?» Ou bien « Du courage, porte-drapeau, du courage ! Est-ce que nous n'avons pas enlevé la grande batterie de Fleurus au pas de course ?» Ou quelque autre chose de semblable. Mais il ne répondait rien. Seulement de minute en minute, il soupirait. Ses vieilles joues creuses se gonflaient. Puis il se penchait et les autres se faisaient des signes, hochant la tête comme pour dire « Ça va mal ». Je me dépêchais de régler l'horloge et de m'en aller. Car de voir ce pauvre vieux dans une telle désolation, cela me déchirait le cœur. En rentrant chez nous, je trouvai M. Goulden à son établi. « Te voilà, Joseph ? » dit-il. « Eh bien, M. Goulden, vous avez eu raison de rester. C'est terrible !» Et je lui racontai tout en détail. « Oui, je savais cela, » dit-il tristement. « Mais ce n'est que le commencement des plus grands malheurs. Ces Prussiens, ces Autrichiens, ces Russes, ces Espagnols et tous ces peuples que nous avons pillés depuis 1804 vont profiter de notre misère pour tomber sur nous, puisque nous avons voulu leur donner des rois qu'ils ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et dont ils ne voulaient pas, ils vont nous en amener d'autres, avec des nobles et tout ce qui s'ensuit, de sorte qu'après nous être fait saigner aux quatre membres pour les frères de l'empereur, nous allons perdre tout ce que nous avions gagné par la Révolution. Au lieu d'être les premiers, nous serons les derniers des derniers. Oui, voilà ce qui va nous arriver maintenant. Pendant que tu courais la ville, je n'ai fait que rêver à cela. C'est presque immanquable, puisque les soldats étaient tous chez nous et que nous n'avons plus de soldats, nous ne sommes plus rien. Alors, il se leva. Je dressai la table et, comme nous dînions en silence, les cloches de l'église se mirent à sonner. Quelqu'un est mort en ville, dit M. Goulden. Oui, je n'en ai pas entendu parler. 10 minutes après, le rabbin Rose entra pour faire mettre un verre à sa montre. « Qui donc est mort ?» lui demanda M. Goulden. « C'est le vieux porte-drapeau. »« Comment ? Le père Ferral ?»« Oui, depuis une demi-heure, 20 minutes. » Le père Desmarais et plusieurs autres voulaient le consoler. À la fin, il leur demanda de lui lire la dernière lettre de son fils Georges, le commandant des dragons, qui lui disait qu'au printemps prochain, il espérait venir l'embrasser avec les épaulettes de colonel. En entendant cela, tout à coup, il voulut se lever. Mais il retomba la tête sur ses genoux. Cette lettre lui avait crevé le cœur. Monsieur Goulden ne fit aucune réflexion. « Voici, Monsieur Rose, » dit-il en remettant sa montre au rabbin. « C'est 12 sous. » Monsieur Rose sortit et nous continuâmes à dîner en silence.